Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Laurence de Coq autour du livre Lettre à une enseignante des élèves de l'école de Barbiana, paru aux éditions Agone, qu'elle a préfacé pour sa réédition le 27 janvier 2023 à la librairie Terra Nova.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être aussi nombreuses et nombreux ce soir à la librairie Terra Nova. Ce soir, on reçoit Laurence de Coq, qui est préfacière du livre L'école de Barbiana. Alors, c'est un classique de pédagogie critique qui est paru dans les années 60 en Italie. C'est un livre qui est surtout écrit par les élèves d'une école. Donc, c'est très original. Mais pour modérer la rencontre ce soir, nous avons Bernard Desvart. Bonsoir, vous êtes syndiqué FSU Tendance École Émancipée. Je vais vous laisser introduire le livre, vous présenter. Merci beaucoup et bonne rencontre.
Merci. Oui, c'est bon, ça marche. Voilà, donc oui, syndicaliste FSU, Fédération syndicale unitaire, donc qui est un syndicat majoritaire dans l'éducation nationale et qui se bat donc pour la démocratisation de l'école publique. Alors bon, cette conférence est quand même organisée par l'Université populaire de Toulouse, ça c'est bien, et merci à la librairie donc Terra Nova, excellente librairie Terra Nova, où vous trouverez l'ouvrage et bien d'autres de nous accueillir. Bon, merci à Laurence, donc historienne, professeure, auteure de nombreux ouvrages et aussi militante engagée et pour l'école émancipée aussi. Voilà. Donc les éditions Agone Mémoire sociale ont décidé de rééditer, comme tu l'as dit, cet ouvrage qui est paru en 1967 en Italie et qui s'appelle L'école de Barbiana et Lettre à une enseignante. Et donc, avec un avant-propos de Pier Paolo Pasolini, et donc une préface de Laurence. Alors, à l'origine, ce livre paraît en Italie, donc, il est écrit par 8 adolescents. Ce sont des adolescents de Barbiana. Barbiana, c'est un hameau sur les hauteurs de Florence, mais c'est en pleine campagne. Hein. Et donc, ce sont des jeunes garçons, des paysans. En voie de prolétarisation, hein, c'est la pleine croissance de l'industrialisation en Italie. Et ils sont à la fois au champ et à la fois amenés, pour certains, à aller travailler à la ville, dans l'industrie, parce que l'Italie, à ce moment-là, a besoin de bras. Et les bras, on va les trouver dans la jeunesse rurale. Voilà, donc ils sont aussi, il faut le noter, très fortement marqués par la Seconde Guerre mondiale, par le fascisme italien. Hein. Donc c'est dans les mémoires familiales, leurs parents ont été confrontés à ce fascisme, ont souvent été dans la résistance. Hein. Et quand on lit le livre, les références politiques les situent à gauche, hein, il faut le préciser. Bon, Pier Paolo Pasolini, qui écrit l'avant-propos, et bon, qui est marqué par la période, hein, les dit même proches, dans leur expression de la révolution culturelle maoïste qui est en train de se dérouler depuis peu en Chine. Alors pourquoi il dit ça ? Parce que leur discours est empreint de lutte de classe, très fortement, mais il remarque qu'il est forgé dans un moule qui est un moule paysan, assez moraliste et fortement empreint de culture religieuse. Et donc, c'est quelquefois assez troublant quand on lit ce livre. Alors, ces 8 adolescents, ils sont tous des recalés de l'école publique italienne. Et ce livre, très poignant à certains moments, hein, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, c'est beaucoup d'émotions. Et c'est une dénonciation par ceux qui la subissent, par eux-mêmes, de l'injustice, de l'élitisme et de l'inhumanité d'un système qui dysfonctionne et qui élimine impitoyablement ceux et celles qui en ont le plus besoin, qui ont le plus besoin d'école. Et ça, il le répète à longueur d'ouvrage. Donc ce livre est écrit avec un langage très direct, sans concession, voire des fois violent, mais c'est fait à dessein. Hein. Ils l'ont écrit collectivement, c'est une œuvre d'écriture collective. Et il liste, à travers l'interpellation d'une enseignante, tout ce qui, mis bout à bout, a fini par les exclure du système. Et donc, ce n'est pas complètement sans non plus perspective, puisque en même temps qu'ils dénoncent ce qui les a exclus, ils avancent des pistes pour des solutions pour qu'ils ne soient plus, eux et puis les futurs jeunes qui les suivront, qu'ils ne soient plus exclus par ce système. Et donc, c'est la première question que je vais poser à Laurence. Est-ce que cette réédition et ta préface est d'une certaine façon, au-delà du contexte italien que je viens d'évoquer largement, inspirée par le fait que ces jeunes sont finalement universels par les propos qu'ils tiennent sur, sur l'école et sur son échec vis-à-vis d'eux?
Eh bien, merci beaucoup. Ça marche ? Oui. Merci pour cette présentation très détaillée de l'ouvrage aussi. Avant de répondre à ta question, peut-être préciser deux, trois choses en effet sur ce livre. Lorsque ce livre paraît en Italie, donc en 1967, lorsqu'il paraît donc en 1967, c'est vraiment, ça fait l'effet d'une bombe en Italie, hein, c'est-à-dire que ça fait un buzz, on dirait aujourd'hui. Hein. C'est un pavé dans la mare, c'est reçu par les autorités gouvernementales, le monde étudiant, le monde intellectuel, comme quelque chose d'absolument inédit, salutaire, d'une très grande violence, mais dont on avait besoin, au point même d'ailleurs que certains disent que ça a nourri le mouvement de mai 68 en Italie, parce qu'on était quelques mois avant. Hein. Donc c'est un livre qui a un succès énorme, qui a été décortiqué, qui l'est encore. Hein. Et si vous tapez École de Barbiana sur Google, vous verrez que c'est devenu un musée, qu'il y a des colloques sur Barbiana, etc. Donc un livre qui a un énorme succès en Italie, et qui, en revanche, est traduit en français. Hein. Il est traduit dans la foulée en français par Mercure de France en 1968. Mais il est finalement assez rapidement oublié dans le contexte français. Vous savez qu'on a dans le monde de la critique de l'école, on a un petit peu des ouvrages emblématiques, des ouvrages phares, Libre enfant de Summerhill, vous les avez tous lus, hein, Une société sans école, d'Ivan Illich, vous savez, c'est ces trucs-là, c'est nos petits livres rouges à nous, quoi, qu'il faut avoir lu quand on est prof et même quand on n'est pas prof. Et donc, ce livre avait tout pour rejoindre ces deux ouvrages-là, c'est la même veine, hein, c'est presque l'équivalent. Et pas du tout. En réalité, il a tourné dans le monde de la pédagogie. C'est vrai que quand on discute avec des gens de la génération du genre Philippe Mérieux, Catherine Chabrin, qui est du groupe Freinet, etc., eux disent oui, nous, ça a été, on se l'est passé, on l'a découvert. Moi, ça a été à l'origine de ma vocation d'enseignante. Donc, il a eu quand même son petit parcours, mais rien à voir avec les dizaines de milliers, les centaines de milliers parfois. Je crois qu'on est à 300 000 sur Libre Enfant de Summerhill, vente hein, et réédition. Donc un livre qui est tombé un petit peu aux oubliettes, et on pourra discuter ensemble de pourquoi, parce que je fais quelques hypothèses dans la préface hein, pour, à mon avis, expliquer pourquoi il n'a pas eu le même succès que les autres ouvrages de pédagogie critique, enfin de critique radicale de l'école plutôt. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est marrant, tu as fait une très belle présentation et tu n'as pas parlé de Don Lorenzo Milani, qui est en fait celui qui va créer cette école de Barbiana. Je voudrais quand même en dire deux mots aussi avant de répondre à ta question. Donc, en effet, Barbiana est un petit hameau, vraiment tout petit hameau, planqué dans la montagne toscane. Et Don Lorenzo Milani est un prêtre du genre des prêtres ouvriers, hein, qui, on lui attribue cette paroisse, donc qui est toute petite. Il arrive sur place, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. On est au milieu des années 50. Il y a quelques maisons, c'est un habitat dispersé. Et il va rencontrer ses ouailles et il va faire du porte-à-porte. Et à chaque fois, il demande que deviennent les enfants. Est-ce qu'ils sont scolarisés ou sont-ils ? Et la plupart des enfants, au-delà en tout cas de l'âge de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire à partir de 11 ans, 12 ans, la plupart ne sont plus scolarisés. Et évidemment, ça l'interpelle qu'aucun de ses enfants n'ait poursuivi son cursus dans l'école secondaire, alors qu'il y a déjà en Italie, à cette époque-là, un cursus primaire, puis l'équivalent, ça ne s'appelait pas comme ça, mais du collège, ça s'appelait les primaires supérieures. Et il constate qu'en fait, en effet, aucun de ses enfants n'y est. Et ce qui réunit, ce qui fait le point commun entre tous ces enfants ou ces adolescents, hein, eh bien, c'est qu'ils sont en effet fils de paysans, hein, et comme le disait Bernard, peut-être même pas en voie de prolétarisation, ils sont prolétaires tout court, hein, et eux, en revanche, n'ont pas été happés par la croissance économique des 30 Glorieuses, comme ont pu l'être d'autres catégories socioprofessionnelles. Et alors, il décide de transformer son presbytère en école. Il leur dit, mais écoutez, venez, voilà, venez, moi je vais vous faire cours et puis on va réfléchir à finalement une poursuite d'études. Si vous le voulez, vous allez, moi je vous donne la possibilité, l'occasion de poursuivre vos études. Et il commence avec 5-6 garçons. Et puis, petit à petit, ça s'étoffe un petit peu. Ça n'ira jamais au-delà de 15-16. Hein, ça ne va jamais devenir une grosse machine. Et le livre raconte aussi le quotidien dans cette école, qui est une école qui se déroule du lundi au dimanche inclus. Hein, donc, ils ont cours tous les jours, 7 jours sur 7. Une école où on travaille. Hein, ce n'est pas du tout Libre Enfant de Summer Hill. Hein. C'est vraiment une école où du matin jusqu'au soir, on travaille, mais on travaille différemment. On travaille avec des pédagogies coopératives, l'écriture collective de ce livre et le produit hein, d'une vraie réflexion sur une pédagogie justement de l'écriture collective. Et on travaille surtout, on y reviendra tout à l'heure, je sais, à partir de ce que les élèves savent et non pas de ce qu'ils ne savent pas. Et c'est à partir de là que les élèves vont progresser, produire eux-mêmes du savoir et pour la plupart d'entre eux, accomplir un cursus secondaire, rejoindre en tout cas après un cursus secondaire. Donc ça, c'était pour la contextualisation. Alors évidemment, moi, quand les éditions Agon m'envoient ce manuscrit des enfants. Donc ça s'appelait « Lettre à une maîtresse d'école hein, » dans la première version. C'est « Lettre à une maîtresse d'école »,« Les enfants de Barbiana ». Donc ils m'envoient ce manuscrit. Moi, je fais partie de la génération qui ne connaissait pas ce livre. Je découvre ce livre. Et je lis effectivement ce manuscrit. Et là, je me dis, alors d'abord, comme tout le monde, je me dis « c'est pas possible que ce soit des gosses qui l'aient écrit ». Tout le monde a ce réflexe-là, hein, de se dire « non, c'est pas possible, il y a quelqu'un derrière ». Alors, peut-être, sans doute, y avait-il Don Lorenzo Milani derrière. Mais en tout cas, il a eu, la beauté de s'effacer hein, et de laisser vraiment en avant uniquement le travail de ces jeunes garçons. Et en effet, comme le disait Bernard, je tombe sur un texte qui est extrêmement émouvant d'abord. Très aride, très austère, presque une écriture qui est travaillée jusqu'à l'os. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun artifice dans cette écriture. Hein. Donc immédiatement, en fait, elle nous saisit. Et elle nous saisit autant dans ce qu'elle peut dire de dur et de violent que dans ce qu'elle peut dire de drôle et de tendre. Voilà. Et donc, en effet, quand on commence à mettre le nez dedans, on n'en sort pas parce que on a vraiment envie de connaître et de comprendre ce que ces enfants ont à dire. Et alors, pour répondre à ta question, je vais juste vous lire un petit passage qui est au tout début, donc il faut que je retrouve. À chaque fois, je me dis, il faut que je le prépare avant de commencer. Attendez, je reprends parce que ma préface est trop longue, évidemment, donc elle prend de la place. Voilà. Donc, c'est le tout début de leur texte. « Chère madame, vous ne vous rappellerez même pas mon nom. Il est vrai que vous en avez tant recalé. Moi, par contre, j'ai souvent repensé à vous, à vos collègues, à cette institution que vous appelez l'école et à tous les jeunes que vous rejetez. Vous nous rejetez dans les champs et à l'usine, puis vous nous oubliez. Ben, » vous voyez, si je vous l'avais lu sans vous dire d'où ça vient, certains et certaines d'entre vous auraient pu se dire « c'est écrit aujourd'hui ça ». Et donc, ça répond déjà en partie à ta question. Il y a effectivement dans la lecture de ce texte quelque chose d'universel, en tout cas quelque chose qui a des résonances contemporaines absolument indéniables. Et quand on lit ce texte, malgré les différences entre le système éducatif italien de la fin des années 60 et les différences entre le système éducatif français des années 2020, on ne peut pas s'empêcher de dire « purée, on n'a pas beaucoup avancé ». Et c'est effectivement un procès en règle contre l'école publique qui, comme le disait Bernard, aux yeux de ses adolescents, ne remplit pas la mission pour laquelle elle existe, c'est-à-dire s'adresser en priorité à ces enfants-là. Tu disais à ceux qui ont le plus besoin d'école, s'adresser en priorité à ceux qui n'ont pas l'environnement socio-culturel et familial qui font que, quel que soit le modèle scolaire, de toute façon, ils vont réussir. Et alors, ce livre est absolument incroyable parce qu'on a quasiment l'impression parfois de lire du Bourdieu Passeron. D'ailleurs, ils sont allés faire une enquête très poussée. La fin du livre, c'est un livret de statistiques. Vraiment, on a l'impression de lire Les héritiers ou La reproduction. Faire une enquête pour montrer vraiment à quel point la réussite scolaire était indexée au niveau social en Italie à la fin des années 60. Et on a exactement le pendant à la même époque en France. Et pour le dire très franchement, on n'a pas beaucoup progressé sur cette question-là non plus, parce que vous le savez peut-être, enfin vous le savez sans doute, la France est non pas le pays qui est le moins bon en matière de réussite scolaire, tout ça ne veut rien dire de toute façon, faudrait revenir sur tous les termes, mais en tout cas est l'un des pays de l'OCDE les plus inégalitaires, c'est-à-dire le pays qui fait le mieux réussir les bons, qui les fait aller le plus loin et qui n'arrive pas du tout à faire décoller les enfants qui sont les plus en difficulté. La France est vraiment dans un gradient qui est absolument incroyable et navrant et ça ne progresse pas du tout. Les derniers chiffres de l'Observatoire des inégalités ou de l'OCDE l'ont encore montré. Donc oui, il y a quelque chose de très universel et dans le procès qu'ils font, et je dis procès et parfois très sincèrement, c'est plus encore qu'un procès, c'est presque des fois une déclaration de guerre. En substance, ce que ces enfants disent aux enseignants, parce que c'est vrai que c'est l'interpellation d'une enseignante un peu, qui est l'idéal type de l'enseignante, mais ce qu'ils disent, c'est que c'est fini maintenant. Soit ça change, soit c'est la guerre. Ils ne disent pas « Oh, on a des petits conseils à vous donner, discutons-en ensemble. » Ce n'est pas du tout de la petite discussion rigolote. Ils disent « Vous êtes des capots de la petite bourgeoisie et c'est à cause de vous, si on en est là, nous. » Ils disent « Vous nous méprisez. » c'est un mépris de classe absolument total. Vous ne reconnaissez aucun de nos savoirs et vous faites tout pour que nous soyons éliminés, recalés. Donc voilà, vous ne vous souviendrez plus de nous. Vous faites tout pour que nous soyons éliminés, recalés du système éducatif. Donc c'est un texte qui, parfois, vis-à-vis des enseignants, peut être très violent. Si vous n'êtes pas méga en forme en ce moment, si vous n'avez pas trop le moral, si vous avez l'impression d'en prendre un peu plein la figure, sachez que ce texte ne va pas vous faire beaucoup de bien. Sauf que, une fois qu'on le lit et qu'on se le prend comme une claque, après ce texte-là, et c'est là aussi que c'est assez universel et c'est pour ça aussi que moi j'ai tout de suite accepté de le préfacer, c'est que ce que dit ce texte-là, c'est « nous avons besoin d'école ». Nous avons besoin de vous, en fait. Vous ne remplissez pas la mission pour laquelle vous êtes là. Et pourtant, vous faites le plus beau métier du monde. Et vous êtes... Alors, en plus, l'un des narrateurs veut être enseignant. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a une mise en avant hein, de ce métier-là, au contraire, comme un métier d'utilité publique. Mais ce qu'il dit, c'est « vous l'avez dévoyé ». Vous l'avez détourné. Il faut en revenir aux racines de ce que doit être ce métier, c'est-à-dire un métier qui s'adresse précisément aux enfants qui n'ont pas d'autres personnes que les enseignants pour pouvoir les aider à accomplir leur scolarité. Donc oui, ce texte, il a des résonances extrêmement contemporaines, universelles, atemporelles, on pourrait dire. Il se lie au présent, vraiment comme si on n'avait quasiment pas avancé sur le sujet. Et vous allez voir à plein d'endroits, toute la réflexion sur les savoirs, toute la réflexion sur la pédagogie, etc. On se dit, ben ouais, c'est nous.
Alors justement, cet ouvrage est écrit en 1967. On voit que c'est une situation que tu viens de décrire. Et entre-temps, il y a de nombreux ouvrages qui ont suivi celui-là dont tu as parlé. Il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites sur l'école, la pédagogie, etc. Et pourtant, aujourd'hui, on continue malheureusement à avoir énormément de jeunes, des classes populaires, qui sont exclus du système éducatif, et notamment du système éducatif français. Et donc, malgré tous les dispositifs et l'échec aussi de ces dispositifs, qui pourraient éventuellement, on pourrait dire, qui répondent aux demandes des gamins, des adolescents de Barbiana, quelle est la situation en France de l'échec scolaire? Et quelle forme ça prend aujourd'hui par rapport à celle que tu viens de décrire dans le contexte de Barbiana?
Alors, je peux pas. Évidemment, si je vais vous donner une solution pour résoudre l'échec scolaire, il faudrait tout de suite me nommer ministre. Hein, alors, par quoi commencer? D'abord, le constat, le diagnostic, bon, je l'ai un petit peu fait. On n'a pas beaucoup évolué sur le sujet, je l'ai dit. Hein, c'est l'école française et voilà, est une des écoles les plus inégalitaires, en tout cas au sein des pays de l'OCDE. Alors, on a quelques petites raison d'être un peu content. Enfin, on en a une. Souvent, quand je fais une conférence, je dis toujours, je vais vous donner une bonne nouvelle. Ce sera la seule. C'est que là, les derniers chiffres montrent que quand même la France amène la moitié d'une classe d'âge aux études supérieures. Ce qui est pas, voilà, hein, d'une classe. Donc c'est pas si mal que ça, hein, la moitié d'une classe d'âge aux études supérieures. Bon, mais enfin bon, il n'y a pas de quoi se réjouir non plus. Si je prends d'autres chiffres, on est par exemple à l'université en doctorat, on est sur des taux entre 6 et 8% d'enfants des catégories populaires, enfin d'enfants, c'est plus des enfants, mais de jeunes des catégories populaires. On tombe à 5% en classe prépa, on tombe à 3% uniquement des garçons d'ailleurs en école d'ingénieurs. Donc on est lamentable hein, en termes de démocratisation scolaire, hein, ce qu'on peut appeler la démocratisation scolaire, c'est-à-dire la possibilité qui est laissée à chaque jeune, quelle que soit son origine sociale, culturelle ou son genre, d'accomplir la trajectoire scolaire de son choix, on va le dire comme ça. En termes de démocratisation scolaire, on est ultra mauvais. Au lycée professionnel, on a plus d'un tiers des lycéens qui sont des enfants issus des catégories populaires, des enfants d'ouvriers, avec une bonne partie aussi des enfants de l'immigration. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tout le monde se fout du lycée professionnel. Hein. Ça ne perturbe pas du tout, ça n'empêche absolument pas les gens de dormir. En revanche, quand on supprime l'histoire-géographie en terminale scientifique, alors là, hein, c'est des insomnies pendant des mois jusqu'à ce qu'on rétablisse, hein, parce que franchement, comment imaginer que des pauvres petits terminales scientifiques n'aient pas d'histoire-géographie pendant un an hein. Vraiment, on a vraiment cru que la civilisation allait s'effondrer. Hein. Mais j'exagère à peine, hein, parce que ça avait fait la une du 20h. Par contre, la réforme du lycée pro, il faut vraiment qu'il y ait de la mobilisation pour que ça fasse la une du 20h. Là, je vous donne plein de symptômes, en fait, des signaux hein, qui montrent là où on en est. Moi, il y en a un qui m'intéresse de plus en plus en ce moment et qui est mon prochain objet de travail aussi. C'est l'état dans lequel on laisse les établissements scolaires, et notamment les établissements scolaires dans les quartiers populaires. Ce n'est pas dans le 16e arrondissement, pardon, je donne des exemples parisiens, c'est ce que je connais le mieux, mais ce n'est pas dans le 16e arrondissement ou dans le 8e arrondissement que vous allez trouver des écoles avec des rats. Des écoles qui ne sont pas chauffées en hiver ou qui sont surchauffées en été. En revanche, hein, vous avez dû tous voir des images hein, de lycées qui tombent en lambeaux, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Voilà, des établissements scolaires qui sont une véritable honte et dont justement l'État témoigne aussi du mépris social et du mépris de classe, tout simplement, hein, qui existe encore aujourd'hui dans ce pays. Tout ça, ce sont des symptômes de l'absence de démocratisation scolaire. Il est clair que l'école publique aujourd'hui continue de piétiner les catégories populaires. Et comme elle se fait concurrencer par l'école privée de plus en plus, eh bien, on se trouve avec un système qui n'est même pas à deux vitesses, hein, parce qu'en réalité, c'est un système à 25 vitesses, hein, entre des stratégies pour des filières qui sont ultra sélectives, qui sont connues par un tout petit nombre de gens, entre Parcoursup, qui justement va permettre à nouveau une sélection bientôt. Ça va être en master aussi qu'on va resélectionner à nouveau. Donc voilà, on a comme ça des étapes de sélection, on peut presque dire un tri sélectif qui existe depuis la fin du collège et qui va être avancé puisque l'une des décisions de Papendiaï dans la réforme d'Emmanuel Macron et de son vote Trilok, donc Papendiaï, pour la réforme du collège, va être d'avancer la possibilité d'orientation en cinquième, hein, à 12 ans, comme c'était il y a 30 ans. Hein. Donc une régression sociale qui est absolument énorme hein, en termes de démocratisation scolaire. En fait, c'est pas compliqué. Hein. Plus vous avancez la possibilité d'orientation, plus vous avancez la possibilité d'orientation, plus vous allez à l'encontre de la démocratisation scolaire. C'est une loi mathématique. Hein. Et plus vous multipliez la possibilité de voies parallèles, plus vous allez à l'encontre de la démocratisation scolaire. Alors, pour donner l'une des raisons, à mon avis, la plus importante, l'une des raisons structurelles qui empêche cette démocratisation scolaire depuis beaucoup plus que les années 60, en réalité, depuis que l'école gratuite laïque obligatoire existe, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle. L'une des raisons structurelles, c'est qu'à aucun moment donné de son histoire, on a contraint les enfants de la bourgeoisie à rejoindre les enfants des catégories populaires dans les mêmes écoles. Jamais. Lorsque l'école publique gratuite laïque obligatoire de Jules Ferry est fondée en 1881-82, il ne ferme pas les lycées, ce qu'on appelait les lycées à côté, mais les lycées, ça allait du CP à la terminale, c'est-à-dire des écoles publiques payantes. Et que croyez-vous que les enfants de la bourgeoisie ont fait ? Ils n'ont pas rejoint les écoles communales gratuites avec les petits pauvres. Ils sont restés dans leur circuit, qui était le circuit parallèle de la bourgeoisie. Alors bien sûr, il y a eu des tentatives, parce qu'on sait très bien que le problème, il est là. Donc Jean Zay, sous le Front populaire, il va essayer de regrouper tout ça et de faire en sorte que ces filières parallèles, elles soient réduites. Le collège unique, c'est une décision remarquable en termes de démocratisation scolaire qui a été dévoyée immédiatement. Hein. Mais sur le principe, c'est-à-dire regrouper trois collèges, les CEG, les CES et les CET, regrouper trois collèges en un seul, ça, ce sont des décisions de démocratisation scolaire. Ce n'est pas compliqué. Plus on réduit la possibilité d'avoir des filières parallèles, plus on augmente les chances de démocratisation scolaire. Parce que sinon, vous laissez toujours la possibilité à ceux qui connaissent les secrets du système de bifurquer et de prendre les voies parallèles qui sont ouvertes. Voilà. Donc, on en est là. On en est là à devoir aujourd'hui payer le manque de courage politique de tous ceux qui se sont succédés sur ce siège éjectable qui est le poste de ministre de l'Éducation nationale, avec quand même, il faut le dire, celui qui a battu, qui est tout content d'avoir battu le record de longévité, et on l'a bien senti passer du ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer, qui, lui, a vraiment assumé de manière complètement décomplexée de ne pas du tout avoir une politique de démocratisation scolaire et qui a appuyé sur l'accélérateur, hein, qui n'a même pas fait semblant, hein, qui a appuyé sur l'accélérateur et qui a aggravé la situation aussi parce que non seulement structurellement, il a, avec Parcoursup, avec d'autres choses, hein, je pourrais rentrer dans les détails, mais bon, ce n'est pas le sujet, mais vous connaissez, vous avez l'air de connaître aussi, mais il nous a aussi assommés, c'est-à-dire qu'il a assommé celles et ceux, nous, hein, qui pouvions essayer justement de faire un peu contrepoids, hein, et de faire un peu pare-feu contre justement ces pesanteurs structurelles. Il nous a assommés, et donc il nous a fait tellement de mal que désormais, on a l'impression que les choses se déroulent sous nos yeux, hein, et presque quasiment sans nous. Et en tout cas, on part avec la vague, quoi. Voilà. Alors, ce n'est pas très réjouissant, ce que je dis, hein, je suis désolée. Mais voilà, le diagnostic, puisque tu demandais où on était et pourquoi, je crois que là, on a vraiment donné... Alors, il y a plein d'autres raisons, hein, mais je ne vais pas parler trop longtemps. Mais là, on a vraiment donné enfin, j'ai essayé de donner les raisons qui sont, à mon avis, les moins données, c'est celle qui m'intéresse le plus en fait, ces questions structurelles. Parce qu'à chaque fois, en fait, on intervient avec un pansement sur une jambe de bois, quoi. On va supprimer une heure de technologie en sixième. Ça y est, on est sauvés. Alors là, vraiment, merci, hein, personne n'y a pensé, hein, voilà. Ou alors, on va ajouter 10 fois développement durable dans le programme de géographie, hein, comme ça, pour lutter contre la crise climatique. On y est, là, ça y est, on y est. Hein, on va ajouter du climat dans les programmes scolaires. Donc en fait, c'est grotesque. Voilà, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas une vraie mesure de refonte entière et courageuse, hein, c'est-à-dire, par exemple, plus d'argent public pour les écoles privées. Hein. Chut, on rapatrie tout vers l'école publique. Voilà. Et puis, on arrête de donner 30 fois plus d'argent aux classes prépa qu'aux établissements d'éducation prioritaire. Ça, c'est des chiffres qui ont été calculés, qui sont insensés quand même. Donc, on sait, on les a, les solutions. Maintenant, effectivement, il faut un volontarisme politique que pour l'instant, personne n'a eu.
Oui, alors, c'est vrai que la région Île-de-France donne plus à l'enseignement privé aujourd'hui au lycée privé qu'au lycée public. C'est vrai que la réforme de l'enseignement professionnel dont tu viens il y a une pétition qui est sur Politis, là, sur l'enseignement public, donc je vous invite à la signer massivement parce que finalement, cette réforme de l'enseignement public, cette contre-réforme de l'enseignement public, elle nous fait revenir à l'école de Barbiana parce qu'en réalité, elle vise à quoi ? Elle vise à renvoyer en apprentissage les gamins de plus en plus tôt. Et donc, en fait, cette petite conquête qu'on avait de l'école obligatoire et d'essayer de garder tous les enfants, même dans des conditions plus précaires pour les classes populaires, est en train d'être mis à bas par cette réforme qui va remettre dans les bras du patronat, il faut dire les choses comme elles sont, de la main d'œuvre, pas chère et corvéable à merci, et donc et avec d'une certaine façon le rôle émancipateur de l'école, du savoir, qui va s'estomper avec l'exclusion de l'école. Moi, j'ai eu des gamins qui voulaient absolument aller en stage parce que l'école, c'était difficile, etc. Et quand ils ont eu vécu quelques semaines en entreprise avec la dureté de l'entreprise et des relations sociales dans l'entreprise, ils ont fait un retour, comme les gamins de Barbiana, sur demander de l'école parce qu'ils ont senti que c'était pour eux quelque chose de très, très important. Alors, dans le livre, il y a aussi... une de la part des adolescents de Barbiana, il y a une forme de rejet de ce qu'ils appellent la culture bourgeoise, hein, et eux ils veulent que l'école s'appuie sur leur vie à eux, sur leur savoir, sur leurs compétences, et il y a tout un tas d'exemples qui sont parfaitement convaincant là-dedans. Mais à un moment donné, ils opposent par contre la lecture des évangiles à celle de Gide, par exemple. Et donc, comment on peut avoir, on peut s'appuyer sur quelle pratique pédagogique pour dépasser ce clivage entre une soi-disant culture bourgeoise et une culture populaire, et pour éviter quand même de tomber dans des travers qui sont ceux de nos gouvernements successifs qui ont, avec des politiques soi-disant de REP, REP+, etc., ont essayé quand même aussi, au-delà des moyens, de dispenser une éducation au rabais pour les couches populaires par rapport à ce qui était enseigné dans le reste de l'éducation. On a réussi à s'opposer à ça, mais comment on peut aujourd'hui s'appuyer sur des savoirs qui ne sont pas excluants, tout en étant quand même en amenant justement le maximum d'élèves à avoir cette vision émancipatrice de l'école.
Alors ça, c'est une question fondamentale qui est soulevée effectivement par ce livre, qui est celle de comment les contenus d'enseignement peuvent-ils aussi être des instruments de démocratisation scolaire. Pour le coup, hein, quand je disais on a l'impression de lire du Bourdieu avant l'heure, hein, enfin c'est presque contemporain, vous savez que Bourdieu a eu une vraie réflexion sur ce qu'ils appelaient la culture légitime, et donc comment la culture scolaire était en réalité vraiment le décalque, hein, de la culture légitime, et donc la distance qui pouvait exister entre une autre forme de culture qui était celle produite par les milieux populaire et cette culture légitime qui est, pour le dire très rapidement, une culture bourgeoise. Et c'était un facteur de creusement des inégalités. Je ne veux pas parler au passé, c'est encore le cas. C'est un facteur de creusement des inégalités extrêmement important, ce niveau de proximité que certains enfants ont avec la culture scolaire, tandis que d'autres, hein, sont au contraire extrêmement éloignés. Soyons clairs, ça n'a rien à voir avec la question de l'intelligence. Hein. Quand je dis, je pèse mes mots, hein, le niveau de proximité avec la culture légitime, ça ne veut pas dire que les enfants des catégories populaires ne savent rien ou n'apprennent rien. C'est juste que c'est d'autres formes culturelles, d'autres modèles culturels. C'est quelque chose, là aussi, qui n'a jamais été pris en main véritablement par le pouvoir pour réfléchir à des curricula, les programmes est un mot tellement affreux, un programme. Programme dit tout déjà du modèle scolaire français comme mot. Donc j'utilise un terme qui est un petit peu plus universel, c'est le terme de curriculum. Voilà. Comment est-ce que les curricula peuvent aussi pourraient être refondus pour participer à cette politique de démocratisation scolaire? Alors, on prenait tout à l'heure l'exemple du lycée professionnel. C'est effectivement pas un hasard si la première attaque frontale récente, en tout cas, contre le lycée professionnel a été de supprimer d'un tiers l'enseignement des matières générales. Hein. On a touché d'abord aux matières générales, donc au français, à l'histoire-géographie, aux mathématiques, à la physique, pour renforcer les matières professionnelles. Donc on voit bien comment, dans l'esprit de ceux qui dirigent, il y a effectivement cette idée que culture populaire égale pas besoin de matières générales. Hein. Il faut aller directement dans le pratique. D'ailleurs, il n'y a qu'à leur demander. Hein. Les mômes, ils disent, moi, le français, je n'ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est travailler, etc. Donc très bien, donc on va leur supprimer du français. Voilà. Donc, là, effectivement, on voit bien comment c'est extrêmement... ça imprègne les élites. Et c'est normal, les élites étant elles-mêmes le produit d'une école qui reproduit les élites. Hein, donc, voilà, tout ça se nourrit. Maintenant, les enfants de Barbiana, est-ce qu'on peut dire qu'ils méprisent la culture bourgeoise? Je serais plus nuancée. C'est pas exactement ça. Ce qu'ils réclament... Parce qu'ils sont effectivement très sarcastiques souvent. Hein. Ils sont très sarcastiques, ils se foutent de la gueule de Homère, etc., des grands poètes. Et ils disent, ouais, en gros, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert de savoir ça? Voilà. Mais en réalité, ils ne disent pas ça ne sert à rien. Hein, je crois, c'est comme ça que je l'ai compris. Et peut-être que voilà, on pourra en discuter aussi avec l'éditeur. On n'a jamais discuté, donc il n'a peut-être pas la même vision que moi. Je crois que ce qu'il réclame, c'est la mise à égale dignité d'une culture légitime et d'une culture non reconnue qui est la leur et qu'ils souhaitent amenée à un niveau de reconnaissance. Pas tellement pour qu'elle se superpose ou qu'elle dépasse parce qu'elle serait plus utile socialement la culture légitime, mais pour qu'on puisse réfléchir à une articulation possible entre ces deux modèles culturels. Et lorsque, par exemple, ces enfants disent je sais grimper aux arbres, je grimpe aux arbres comme n'importe, enfin comme aucun de vos élèves de petits bourgeois urbains grimpe aux arbres comme moi. Et pourtant, je ne connais pas les règles du handball, ou je ne sais plus si c'est le volley ou le basket. Voilà. Et donc, j'ai zéro. En fait, qu'est-ce qu'on évalue là ? Qu'est-ce qu'on évalue ? On évalue simplement le fait que je ne connais pas les règles du sport qui est considéré comme légitime à ce moment-là. Pour autant, sur le plan de l'aisance corporelle, de l'endurance, de je ne sais pas quoi, voilà, bon, on ne peut pas dire que je ne connaisse rien. De même, je connais tous les noms et toutes les déclinaisons possibles selon les saisons de tel arbre fruitier, etc. Alors, à quoi sert ce savoir dans votre modèle culturel à vous ? C'est surtout ça, en fait. Hein. C'est vraiment le fait de réclamer que le savoir qu'ils ont soit mis à égale dignité, soit aussi reconnu. Et pourquoi pas, d'ailleurs, fasse l'objet lui-même d'un apprentissage de la part des cultures, des élites. Ce serait ça, en fait, finalement, ce qu'on a pensé comme une école polytechnique, hein, c'est-à-dire voilà, une école dans laquelle les savoirs pratiques et les savoirs disciplinaires ou abstraits sont mis à égale dignité. Il y a un peu de cet embryon-là, en fait, je trouve, dans leur manière de parler de cette culture légitime à laquelle ils n'ont pas accès. On leur prive d'y avoir accès. Ils ont envie d'y avoir accès, mais ils n'ont pas envie pour cela. La condition ne doit pas être de lâcher ce qu'ils sont. Voilà. Et ça, c'est important. C'est vraiment important parce que tout ce travail aussi d'écriture collective est un moyen, parce qu'on parlait de pédagogie, donc en voilà un, hein, voilà un moyen, moyen de conscientiser aussi leur position de classe, leur conscience de classe, et d'en faire véritablement un objet d'interpellation, donc un objet de fierté. Voilà. Et là, on a un outil pédagogique, qui est vraiment un outil pédagogique qui ensuite va être travaillé par la pédagogie critique, hein, c'est assez classique, c'est-à-dire l'exercice qui permet une conscientisation et qui permet, pour le dire un peu rapidement, mais, un retournement de stigmates. Hein, c'est-à-dire je conscientise ma place dans le cadre du rapport de domination, mais je ne la conscientise pas pour l'accepter comme une espèce de donnée ou d'invariant. Je la conscientise pour pouvoir non pas l'inverser, qui serait passé dans le camp des dominants, mais l'annuler. Voilà. C'est pour ça que je disais la mise à égale dignité entre les deux. Ça, c'est un outil pédagogique. Donc, tu demandais quelle pédagogie il pourrait y avoir. Alors, la pédagogie, ce n'est pas une baguette magique. Hein. Donc, la pédagogie seule ne suffira pas à compenser toutes les défaillances du système éducatif. Hein. Ça, c'est indéniable. En revanche, on a effectivement un déficit important de réflexion sur des pédagogies qui sont des pédagogies qui restent exigeantes en termes intellectuels. Hein, c'est-à-dire qu'il ne se substitue pas à une exigence intellectuelle, comme on peut le voir aujourd'hui, la pédagogie de projet, par exemple, ça, c'est vraiment le truc où, la pédagogie de vitrine, hein, la pédagogie de vitrine, et puis derrière, on ne sait pas du tout quels sont les objectifs en termes d'apprentissage, quelles sont les exigences intellectuelles, mais on est dans un beau bahusep, ou REP, ou je ne sais pas quoi, on fait de la pédagogie de projet, on capte tout le pognon, hein, parce que c'est ça qui est en train de se dessiner. Voilà, on ne sait pas du tout les attendus en matière d'apprentissage pour les gamins, mais voilà, on aura fait de la pédagogie de projet, donc on est les pédagogues. Ce n'est pas ça, évidemment, la pédagogie. Hein. La pédagogie doit être toujours articulée à des exigences intellectuelles en termes d'apprentissage, et encore plus lorsqu'il s'agit des enfants des classes populaires.
Oui, je disais pas que les ados de Barbiana rejetaient cette culture et ils voulaient y avoir accès. Et quand, bon, vous l'avez peut-être lu le livre et puis vous le lirez. Ils ont très envie d'avoir accès à une culture, comme tu le dis, très 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 générale. Ce qu'ils dénoncent effectivement, c'est le fait qu'on utilise la façon dont est utilisé ce savoir-là pour les exclure finalement de la façon dont il est utilisé, de façon très, très normative et puis quasiment incompréhensible par eux, puisqu'ils parlent souvent, il y a le latin qui revient beaucoup, bon, etc. Et ils voient bien que c'est un instrument finalement d'exclusion pour eux et de différenciation entre ceux qui ont accès à ces savoirs tout à fait chez eux, etc. et eux. Et donc c'est pour ça que je posais ces questions, parce que c'est vrai que la tentation, ce qu'on disait, la tentation de dire, bon, ben, ces gamins-là, de toute façon, ils ont une intelligence pratique, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas d'intelligence, mais ils ont une intelligence pratique, donc on va se contenter de leur donner, de mettre en valeur ça par l'enseignement technologique ou professionnel. Bon, c'est une forme d'exclusion, peut-être moins brutale que celle de Barbiana, mais ça en est une, et d'où la référence à l'école polytechnique. Une dernière question avant de vous laisser la parole, c'est une question plus générale, et sur qu'est-ce que nous aussi on peut faire d'une certaine façon, parce que on est dans une situation, tu l'as dit, avec Jean-Michel Blanquer qui a poussé les feux le plus loin que ce qu'on a pu connaître, hein, vers la privatisation, en gros, de l'enseignement public, et pour une individualisation des parcours dont on voit que, bon, évidemment, les plus riches seront les mieux servis. On a déjà quand même, comme tu disais, l'enseignement privé qui permet justement de contourner la carte scolaire et de ne pas avoir ce qu'on appelle, mais on peut y revenir sur le terme, mais bon, la mixité sociale, et puis de faire des ghettos de riches, hein, parce que les ghettos, c'est les ghettos de riches, c'est pas le reste, non. Mais on a aussi une montée en puissance de l'école à la maison avec la méthode Montessori, donc un repli un peu individualiste aussi pour échapper à cette école-là. On a quand même pas mal de collègues qui sont en souffrance. Hein. Bon, il y en a qui continuent à être comme ceux de Barbiana, qui continuent à faire tourner la machine sans trop se poser questions, mais on a beaucoup quand même de collègues qui sont en souffrance, beaucoup de démissions. Bon, il y a des batailles qui sont menées pour essayer d'aller vers une démocratisation de l'école, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme piste de réflexion, comme piste d'action, évidemment, et l'action dans les établissements, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut donner comme grands éléments pour agir collectivement, pour aller vers une école publique de masse? Parce qu'effectivement, les écoles, les petites écoles privées, égalitaires, émancipatrices et émancipées, puisque il faut que les profs s'émancipent de ces, parce que le système Blanquer, c'est des contenus pléthoriques. Avec des heures ridicules, donc c'est le maximum de bourrage de crâne, avec des évaluations, et les élèves de Barbiana les dénoncent, avec des évaluations sans fin qui visent à éliminer, qui stressent pour aboutir à un parcours sup où personne peut lire en réalité même son parcours, même les entre guillemets bons élèves. Donc quelles sont les pistes sur lesquelles on peut essayer de réfléchir collectivement et agir collectivement pour aller vers une école donc égalitaire, émancipatrice et qui n'exclut plus? Alors on l'aura pas avec ce gouvernement, ça c'est sûr, mais on peut quand même essayer de tracer des pistes pour l'avenir.
Alors évidemment, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Que faire, hein, comme disait l'autre? Alors voilà, moi je vais vous dire où j'en suis à peu près de ma réflexion, et puis après on en discutera, parce que je détiens pas la vérité, hein. Tout ça ne peut être que le produit d'une réflexion collective. La première chose qui me semble désormais incontournable, vraiment, je pèse mes mots, c'est ne plus rien attendre de l'institution en l'état, hein. Pour l'instant, ne plus rien attendre de l'institution, et notamment en matière de gratification. Il faut faire le deuil, je le dis à tous ceux qui espèrent encore avoir les félicitations de leur inspectrice, inspecteur, machin. Il faut faire le deuil de ça. Voilà. Il faut aller chercher sa gratification ailleurs. Toute gratification qui viendra de la hiérarchie, même si je sais qu'elle fait plaisir, hein, sera du temps perdu pour la refondation d'une école démocratique. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ça a comme conséquence immédiate qu'il nous faut tisser partout, tout le temps, en permanence, du collectif. ce collectif, parfois, il n'existe plus dans les établissements. Moi, j'entends très souvent, hein, je fais beaucoup de stages syndicaux, hein, toi aussi, hein, tu entends très souvent les collègues qui nous disent « je me sens seule dans ma salle des profs, j'arrive avec mes tracts, SNES-FSU, tout le monde dit « ah, encore avec ses tracts, hein. Dans mon école, je ne veux pas faire les évaluations, mais tout le monde veut les faire parce qu'ils ont peur de se faire disputer par l'inspectrice, etc. etc. » On l'entend tout le temps, ça. Bon. On ne fait pas front tout seul. Ça, c'est pas possible. Là, l'institution est devenue vraiment trop répressive pour que vous puissiez vous permettre de faire front tout seul. C'est pour ça que je disais faire du collectif partout, tout le temps. Aujourd'hui, heureusement, on est dans un monde dans lequel, même si c'est morose et atomisé dans votre établissement, le collectif, vous pouvez le trouver ailleurs. Vous le trouvez dans des stages syndicaux, vous le trouvez dans des collectifs pédagogiques. Il y a l'ICEM, il y a le CRAP, il y a le GFEN, il y a plein de nouveaux collectifs qui se sont créés, Lettres Vives, Questions de Classe, etc. Vous le trouvez même sur les réseaux sociaux, pas n'importe comment, hein, parce que c'est toujours à double tranchant, mais il y a des choses qui se passent d'un point de vue coopératif ou de soutien collectif sur les réseaux sociaux. Ici, là, on est en train aussi de partager un moment collectif qui fait du bien. Voilà, donc ces collectifs-là, il faut pouvoir les multiplier partout. Il faut aussi travailler à ce que la question de l'école publique redevienne une vraie question politique, au sens noble du terme. Moi, je n'en peux plus quand j'écris un article, par exemple, et qu'on illustre mon article avec une jolie photo des petits-enfants. Ah, les petits-enfants à l'école, ils sont tellement mignons, voilà. Hein. Et que dès qu'on entend parler d'école, c'est voilà, des gens qui vous disent encore « j'ai rien contre cette femme, hein, mais le dernier livre qui est sorti sur le collège de Maragoyer, alors qu'on est tous vent debout, machin, en train de dire ça va pas, etc. C'est « oh, je vis ma meilleure vie, c'est tellement formidable, le collège, c'est génial, les enfants, ils sont tellement mignons, ils sont tellement curieux, etc. » Oui, c'est très bien, très bien. Très bien qu'il y ait des profs heureux, voilà, bon, moi aussi je suis très heureuse et tout, c'est très bien, on peut le dire, mais c'est pas ça, politiser la question de l'école. Hein. Politiser la question de l'école, c'est précisément poser des mots politiques sur ce qui se passe, et en particulier en termes d'inégalité, en termes de rapport de domination, en termes de choix politiques. Qu'est-ce que ça signifie des gouvernements successifs qui ne privilégient pas l'école publique ? En termes aussi d'alliance avec les autres services publics, évidemment, hein, parce que l'école n'est pas seule à subir tout ce processus de démantèlement. Donc voilà, cette manière de poser des mots politiques sur l'école, alors on est quelques-uns, quelques-unes à le faire, heureusement, hein, mais c'est vraiment un combat, parce qu'on a laissé s'installer aussi cette idée que hein, personne ne vous dira « l'école, j'en ai rien à foutre ». Tout le monde va dire « ah, mais moi, ça m'aide, alors moi, c'est le sujet que je trouve le plus important ». Voilà. Et une fois qu'on a dit ça, ah bon, mais pour. Ah non, mais moi, ce que je veux, c'est que mon enfant, il soit heureux. Alors voilà, hein, faut qu'il soit heureux à l'école, parce que là, il s'ennuie. Du coup, comme il s'ennuie, moi, je l'ai mis dans une autre école. Bah oui, parce qu'un enfant qui s'ennuie, enfin, c'est franchement le truc le plus grave qui puisse lui arriver dans la vie, hein, s'ennuyer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des choses comme ça où on a l'impression qu'on a un sujet consensuel, alors qu'en réalité, c'est un sujet, un objet même extrêmement clivant. Il faut assumer qu'il soit clivant. Et dans le cadre de conversation, il faut vraiment repolitiser cet objet-là. Maintenant, ces lieux collectifs, ces espaces collectifs, ces tiers-lieux, comme on dit aujourd'hui, doivent aussi être des endroits où on construit. Par exemple, les stages syndicaux, alors ça se fait de plus en plus, hein, parce que moi, je fais aussi, j'en fais beaucoup, beaucoup, mais doivent être des lieux dans lesquels on ne réfléchit pas simplement en termes de lutte syndicale. Alors nous, à École émancipée, on le fait parce qu'on a une tradition pédagogique qui est très, très ancrée, mais ils commencent à le faire à la CGT, ils commencent à le faire à Sud, enfin, Sud, ils le font aussi depuis pas mal de temps, des vraies réflexions pédagogiques aussi. C'est-à-dire, voilà, comment on fait ? Et cette question-là, comment on se dépatouille de cette question-là ? Et cette question-là, au fond, est-ce qu'elle a sa place aussi dans les programmes ? Et par quoi on pourrait la remplacer si elle n'a pas sa place ? Voilà. C'est ça, construire, en fait. Et c'est en fait, quand je disais aussi ne rien attendre de l'institution, il est évident, par exemple, qu'on ne peut plus rien attendre de la formation continue aujourd'hui. Hein, sauf si vous avez envie de vous bouffer de la neuroscience sans arrêt. Ce qui n'est pas inintéressant, mais quand on l'a fait une fois, c'est bon. Hein. Mais on ne peut plus rien attendre de la formation continue aujourd'hui, tellement elle est indigente. Je ne parle même pas de la formation initiale. Donc cette formation, il faut bien la prendre en charge, nous. Voilà. Et ces lieux collectifs, ces stages syndicaux, ces stages de collectifs pédagogiques sont des espaces de formation. Ce qu'on est en train de faire là aussi, d'une certaine manière, c'est aussi un petit moment de formation. C'est-à-dire, on repart chez soi avec plein de questions et en se disant, bah, tiens, je vais lire les enfants de Barbiana parce que ça va me nourrir. Voilà. Et qu'est-ce qui fait tenir un enseignant? Ça, on le sait. Hein. Ce qui fait tenir un enseignant, c'est l'impression de ne pas se scléroser. Voilà. Et donc de continuer à avoir une nourriture intellectuelle, ce dont il nous prive. Ce dont il nous prive par la cadence infernale qui nous est donnée, par cette évaluationnite aiguë, par des conditions matérielles de travail insupportables, etc. Donc cette valorisation intellectuelle qui est au fondement de notre métier, il faut qu'on aille la chercher. Il faut faire un effort pour aller la chercher. Moi, les livres que j'écris sont des efforts. À chaque fois que je les écris en me disant ce sont des outils de formation pour mes collègues. Et même moi, d'ailleurs, en les écrivant, je me dis, ben, voilà, toc, 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 ça me fait aussi gamberger. Même le dernier, sur le Freiné, alors que c'est un livre d'histoire hein, sur le couple Freiné, voilà, sur leurs 10 premières années, ben, malgré tout, il faudrait que je revienne pour en parler, mais malgré tout, pour moi, c'est un outil de formation. Voilà, sur l'articulation entre la pédagogie et le militantisme politique, par exemple. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut qu'on prenne le temps de réfléchir. Cette reconquête du temps, je le dis à chaque fois dans les stages syndicaux, c'est important. Cette reconquête du temps, c'est un truc majeur aussi. Remettre la main sur le temps. Parce que la vague néolibérale, sa particularité, évidemment, hein, la cadence infernale, c'est une confiscation du temps. Hein ? Donc la remise, remettre la main sur notre temps, c'est une manière de résister aussi à cette vague néolibérale. Voilà. Et puis, cette croyance, ça fait un peu religieux de dire ça, mais cette conviction, quand même, qu'on a une utilité sociale, et même si ça ne nous est pas renvoyé immédiatement, ni par les gamins qui ne vont pas super bien non plus, ni par nos collègues, ni par les parents, etc., il faut aller chercher les raisons d'être de notre utilité sociale. Et c'est aussi à ça que ça sert, le collectif. C'est qu'à un moment donné, on se retrouve tous et on se dit, bah ouais, en fait, finalement, c'est assez utile ce qu'on fait. En fait, on sert à quelque chose. Voilà. Donc, c'est tout un tas de... Alors, ça va être long. Ça va être très, très long. Mais voilà, c'est tout un tas de c'est un processus, je pense, psychologique dans lequel il faut que nous entrions, et politique, dans lequel il faut que nous entrions, et qui nécessite aussi de rompre avec la routine à laquelle on était habitué jusque-là. Hein, parce qu'on est dans un point de bascule, là, vraiment. Je pense que là se joue en creux la question de la survie de l'école publique. Voilà. Donc, si on a envie que ça survive, je pense qu'on n'a pas trop le choix, qu'il faut s'y coller.
J'ai pris une grosse claque en lisant ce livre que je n'avais pas lu avant. Voilà. Alors déjà, je voulais éclaircir un petit malentendu. Enfin, je sais pas, on ne parle pas de la même chose quand on parle de pédagogie, de projet, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que toi, tu parles de tout ce qui est appel à projet et de la libéralisation de l'école et de l'expérimentation marseillaise et tous ces trucs-là. Moi, par exemple, quand les enfants de l'école de Barbiana se disent « Ouais, c'est vrai, on est recalés de partout, donc du coup, on va faire une recherche sur... » Mais qui est recalé, qui n'est pas recalé? Et que font les papas des enfants recalés à tel âge, à tel âge, à tel âge, à tel âge, et qui font des tableaux extrêmement minutieux? Pour moi, c'est de la pédagogie de projet. Enfin, voilà, c'est ça pour moi, la pédagogie de projet. Ensuite, tu parles du temps, de reconquérir le temps. Et je pense que ça, c'est incompatible avec les programmes et la programmation et toute la mythologie de l'éducation nationale. Voilà. J'en profite pour faire une petite minute publicitaire parce que je suis militante à l'ISEM Pédagogie Freinet de Haute-Garonne et j'invite tous les enseignants de la maternelle à l'université, s'il y en a dans la salle, à venir à nos réunions qui sont gratuites et qui se passent dans les écoles ou les lycées pro ou partout en Haute-Garonne. Voilà. Et c'est tout. Merci beaucoup.
Je réponds tout de suite sur la pédagogie de Préjean. En fait, c'est vraiment une question de terminologie. Ce que tu décris, effectivement, c'est une pédagogie de projet. Alors, disons que ça fait partie des fondements de la pédagogie active, c'est-à-dire partir du désir des enfants de trouver et donc les accompagner dans une recherche. J'aurais dû préciser que je mettais des guillemets, mais là, aujourd'hui, pédagogie de projet est devenue une formule. C'est devenu une formule type qui est venue recouvrir complètement justement ce socle historique des pédagogies actives. Et donc aujourd'hui, pédagogie de projet, ça résonne effectivement comme tout ce qui est porté par les projets à Marseille, etc. Donc oui, c'est effectivement une pédagogie de projet, ce que font les enfants de Barbiana, mais à l'époque, on n'appelait pas ça comme ça. C'était, c'était simplement une recherche. D'ailleurs, ils disent recherche. C'est une recherche. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des projets. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut en revanche refuser cette injonction au projet pour pouvoir toucher l'argent que d'autres écoles n'auront pas. Ça me semble fondamental, par exemple, hein, parce que évidemment, vous savez bien que l'expérimentation marseillaise, elle est destinée à être généralisée partout. Hein. Ils vont regarder comment ça se passe, ils vont dire ça se passe bien, et donc ils vont la généraliser partout. Et donc l'esprit de cette expérimentation, c'est de donner l'argent, le fonds d'innovation pédagogique, ce qui prouve quand même qu'ils en ont, de l'argent. Hein. Le fonds d'innovation pédagogique est destiné à donner de l'argent à ceux qui brandiront les meilleurs projets. Sur l'annonce publicitaire, je ne peux aussi que vous encourager à rejoindre l'ISEM et à aller aux réunions de notre collègue.
Alors moi, j'ai une réflexion sur tout ce qui est terminologie et les termes qu'on utilise. Et je la mets en lien avec Tisser du collectif. Moi, je ne suis pas du tout dans le corps enseignant. Ma sœur est enseignante et l'éducation, ça m'intéresse parce que c'est quelque chose qui a forgé un peu mon cheminement dans la vie. Ça m'a brisée comme ça m'a construite. Et pour moi, ce collectif, il doit se tisser aussi bien dans le corps enseignant qu'avec les élèves, qu'avec les parents, qu'avec des personnes comme moi qui sont tout simplement intéressées. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent se, comme on disait de toute manière, il y a des choses qui doivent se définir ensemble. Et pour exemple, tout à l'heure on parlait de culture générale, alors qu'en réalité, quand on parle de culture générale, on parle de culture bourgeoise. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on reproduit inconsciemment. Donc pour moi, c'est ça, c'est vraiment une question aussi d'inclusion et pas uniquement se focaliser sur OK, le corps enseignant, on va réfléchir ensemble. Pour moi, c'est vraiment toutes les sphères qui doivent se rejoindre pour justement contribuer à cette reconstruction de ruines. Voilà.
Juste avant de laisser Laurence répondre, mais par rapport à l'intervention précédente et à celle-là aussi, je pense qu'on ne doit pas lâcher, malgré tout ce qui peut se passer ailleurs, je crois qu'on ne doit pas lâcher le combat à l'intérieur de l'éducation nationale pour essayer de faire le mieux possible quand on est enseignant, évidemment, mais collectivement. Parce qu'on le disait tout à l'heure, c'est des lieux collectifs, mais si on arrive à retisser... parce qu'il y a une offensive dans l'éducation nationale pour effectivement la rendre insupportable aux élèves, mais aussi insupportable aux enseignants, et pour arriver à la privatiser. Mais en privatisant l'éducation nationale, il faut se dire une chose, c'est qu'on va priver d'école tous les gamins qui ont encore accès aujourd'hui. C'est une conquête quand même, d'une certaine façon, l'éducation. Et je crois qu'il faut, se battre dedans pour essayer de rendre des mouvements pédagogiques et la mise en œuvre collective ou individuelle dans les pratiques, même si c'est rendu difficile, ça reste toujours un combat utile. Alors le combat ultime, c'est de tout renverser et de mettre en place une autre école, mais dans l'instant présent là, il faut quand même bien faire quelque chose. Moi, je suis comme toi. Moi, je suis, je m'excuse de parler de moi, mais moi, j'ai été enseignant, mais je suis un élève recalé. J'ai arrêté l'école très tôt et c'est le militantisme qui m'a fait retrouver la voie de l'école et aussi le souvenir, comme ces gamins, alors moi d'enseignant, mais en positif, et le discours petit à petit qu'ils ont. Et je pense que, comme tu disais, ça forge quand même, malgré tout, même si l'école, c'est quelque chose qui est violent en direction de certains élèves, ça, il y a toujours, et quand on voit nos anciens élèves, on a aussi ce truc-là, il y a toujours quelque chose qui vient, pas toujours, mais en fait, il y a souvent quelque chose qui vient en positif. Et je pense que ça, il faut ne pas lâcher ce combat-là et ne pas se résigner, parce qu'ils attendent ça quand même, ils attendent ça, qu'on soit en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que citoyen, qu'on soit résigné à la destruction d'une école publique, laïque et gratuite, parce que ça, c'est très important. Et on peut avoir toutes les critiques qu'on veut, il faut quand même continuer à défendre le principe, qui est un principe, parce que l'éducation, c'est pour les couches populaires, c'est aussi émancipateur. Et c'est ce côté émancipateur qu'il faut qu'on arrive à faire transparaître malgré tous les empêchements qu'on essaie de nous mettre au quotidien. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop moi, mais bon, je pense que... Mais je suis bien persuadé que ça ne s'exclut pas avec l'éducation populaire et avec tout ce dont on a parlé, évidemment, ici.
Je voulais rebondir sur deux choses. D'abord, en effet, hein, sur ce que vous dites, le fait de tisser du collectif, bien sûr, hein, ne doit pas se cantonner à un entre-soi enseignant. Hein, il faut tisser des alliances aussi. J'ai toujours été très, par exemple, interpellée par le fait que dans des établissements scolaires, il n'y ait pas d'autres endroits qu'une salle de classe où le prof et les élèves puissent être ensemble, à part à la cantine. Enfin, la cantine, c'est autre chose. Et encore, ils sont séparés à la cantine. Ouais. Donc, c'est marrant qu'on n'ait jamais pensé à un endroit dans lequel on puisse se croiser, élèves et profs, discuter, et puis autres enseignants, autres personnels d'ailleurs que les enseignants, hein, parce qu'il n'y a pas que des profs, hein, les AED, les AESH, etc., des espaces de convivialité. Et ça va loin, parce que je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, enfin je pense que si, mais dans certains établissements scolaires, quand il y a un pauvre gamin qui a le malheur de franchir la porte de la salle des profs, le pauvre, ah non mais je viens parce que c'est madame qui m'a demandé de venir, et tout tremblant, il n'ose pas aller à la photocopieuse, c'est, voilà, parce que c'est le moment des profs et tout. C'est grotesque, c'est vraiment des procédures comme ça, qui sont des procédures de cloisonnement, hein, chaque corps replié sur lui-même. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va résoudre les choses. Donc, tout à l'heure, je parlais des établissements et de l'architecture elle-même. C'est important aussi, hein, d'inscrire dans une architecture la façon dont on conçoit les sociabilités. Et ça, ça serait une piste, hein, dans notre future école, gratuite, laïque, obligatoire, évidemment, pour reconstruire. Et je rebondis aussi sur ce que disait Bernard, parce que c'est vrai que c'est important d'être prudent lorsqu'on a une critique radicale de l'école. Tout à l'heure, je vous disais, ça m'est un peu sorti de la tête, mais je vous disais, ce livre, il n'a pas eu le succès qu'a pu avoir Libre Enfant de Summerhill ou Une société sans école, etc., en France. Et je me suis posé la question de pourquoi est-ce que ce livre n'avait pas intégré le répertoire de la critique radicale de l'école. Ce répertoire qui pourrait être le répertoire d'une gauche radicale, d'une gauche de transformation sociale, qui s'est en revanche complètement approprié l'idéal libertaire de Libre Enfant de Summerhill, ou au contraire, détruisons l'école, non pas d'ailleurs pour mieux la reconstruire, détruisons l'école tout court, de Une société sans école d'Illich. Et on voit bien aujourd'hui que une certaine frange de la gauche radicale est assez nombreuse, assez importante, continue à apporter cette idée qu'il faut détruire l'école publique parce que c'est l'école de la disciplinarisation des corps, c'est l'école caserne, c'est toute cette critique des années 70 aussi. Hein, voilà, c'est l'école qui caporalise, qui ne fait que reproduire des inégalités, etc. C'est un discours que l'on entend encore et ce sont ces mêmes personnes qui parfois vont fonder des écoles alternatives hors contrat, des écoles, alors tu disais Montessori, mais voilà, mais Montessori, démocratique, dynamique, il y a plein de noms, elles sont très inventives dans les noms, hein, et qui coûtent un demi-smic par mois. Et qui donc, à l'arrivée, ne sont fréquentées que par les enfants de la bourgeoisie. Et ou ceux qui ont un fort capital culturel, mais c'est aussi une forme de bourgeoisie. Et ces gens-là, qui pourraient être des camarades politiques, ne nous rendent pas service, hein, parce que dans certains villages, l'école publique ferme parce que une école alternative a été fondée et qu'il n'y a plus assez de gamins pour aller dans l'école publique. Donc il y a des moments où ça commence vraiment à poser de très très sérieux problèmes. Et pourquoi est-ce que ce livre, je pense, ne fait pas partie du répertoire de la gauche radicale aujourd'hui en France ? Et pourquoi je pense qu'il faut qu'il y entre ? Et que c'est aussi pour ça qu'il a été réédité. Parce que ce livre pose la question de la critique de l'école en termes de classe. Ce livre ne dit pas « il faut détruire l'école publique ». Ce livre dit « on n'a pas à transiger avec la bourgeoisie ». Ce livre dit « L'école publique, elle est faite pour les enfants qui en ont le plus besoin. » Et c'est aux bourgeois de nous rejoindre, pas l'inverse. Donc c'est à mon avis un discours de gauche radicale qui est particulièrement important, mais qui ne va pas dans le sens de la critique radicale de l'école en France, qui est plutôt « allez, rasons tout, hein, et transformons les écoles en ZAD ». Je caricature un peu. Voilà. Mais je pense qu'on a là une raison pour laquelle ce livre, il n'est pas entré au même titre que « Libre enfant de Sommeril » ou que « Une société sans école » dans le répertoire de la gauche radicale, parce qu'il pose de façon violente la question de la classe. Et cette question de la classe, eh ben, des fois, elle disparaît. Et dans la gauche radicale d'aujourd'hui, et sur l'école, c'est symptomatique. Quand vous avez, par exemple, une revue comme Lundi Matin, qui est la revue emblématique de la gauche radicale, qui en fait publie article sur article pour dire qu'il faut en finir avec l'école de la République, et avec plein de bonnes raisons, hein, dont des témoignages d'élèves qui sont en souffrance, etc., on peut être d'accord avec plein de choses, mais à un moment donné, on a envie de leur dire « Hé, votre modèle, le modèle que vous proposez, il est ouvert à qui ?» On parlait de l'école de masse. Ce n'est pas une école de masse. Donc, qu'est-ce qu'on propose comme modèle alternatif d'école de masse ? Comment on maintient la gratuité, par exemple ? Qui est effectivement un principe majeur, fondateur, celui sur lequel on n'a pas le droit de transiger. Dès que vous entendez une école qui vous dit « Oui, d'accord, c'est un demi-smic, mais c'est graduel, vous verrez, en fonction du quotient familial, etc. » C'est bullshit. Moi, j'ai fait une enquête, j'ai fait exprès, j'ai appelé une école Montessori, soi-disant sociale. Je leur ai dit « Voilà, bonjour, nanana, ça m'intéresse, votre école, nanana, mais je n'ai pas beaucoup d'argent, voilà, parce que je voulais faire une enquête pour un article, etc. » Mais ils m'ont dit « Ah, là, bah, écoutez, au début, ils étaient tout contents, parce qu'ils voyaient que j'avais un bagage culturel important, je savais ce qui c'était Montessori et tout, donc je savais bien en parler. Puis dès que j'ai dit « Mais je n'ai pas d'argent », là, on vous rappellera. Voilà, concrètement, c'est ça qui se passe. Hein, et il y a deux élèves qui, grosso modo, il y a deux élèves par promo, hein, qui effectivement ont des enfants qui gagnent pas énormément, ont des parents qui gagnent pas énormément d'argent, mais tout le reste, on est à du 85% de familles qui payent un demi-smic par mois. Et quand je dis un demi-smic, c'est le minimum. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut en effet être très prudent avec cette idée de on en finit, on fait table rase avec avec l'existant. L'existant, il protège encore une petite partie des gamins.
Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris avec cette présentation. Alors, entièrement d'accord, bien sûr, sur l'état délétère de l'école publique et sur le fait qu'il faut s'organiser et travailler en collectif. Hein, tout à fait d'accord, bien sûr. Et alors, est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur quand même aussi des éléments de résistance idéologique, tels que tout ce qui se fait autour de l'intersectionnalité, c'est-à-dire le courant féministe, bien sûr, et le courant antiraciste. Voilà, il y a MeToo, que tout le monde connaît, il y a Black Lives Matter aux États-Unis, mais avec ses répercussions en France. Il y a le combat antiraciste par rapport aux minorités musulmanes, bien sûr, tout cela est très très important. Et on constate qu'effectivement, là, il y a des points d'appui idéologiques qui nous permettent d'avancer. Donc, est-ce qu'au niveau de cette culture populaire qu'il faut revaloriser, à partir, bien sûr, des notions de classe, mais aussi la notion de genre et la notion de race, sans esprit raciste, bien entendu, notion d'ethnie, ethnique, si vous préférez ce terme-là, on ne pourrait pas justement collaborer à reconstruire une culture du peuple qui intègre ces différentes notions et qui nous permettrait d'avoir des programmes qui soient adaptés, hein, effectivement, à la demande sociétale et à la demande des jeunes. Parce qu'effectivement, les jeunes, ils sont en phase évidente avec tous ces paramètres. Le paramètre de classe, bien entendu, mais aussi le paramètre de genre, le paramètre de race. Et alors, je prends des exemples d'actualité, bon, au niveau de l'incarnation. Voilà, c'est ça. Avec qui collaborer maintenant pour nous permettre d'intégrer, d'aller vers cette école inclusive? Annie Ernaux, comme vous le savez, vient d'avoir le prix Nobel de littérature. C'est une ancienne professeure de lycée en lettres, hein, en lettres modernes. Voilà. Elle a toujours assumé cette expérience professionnelle extrêmement importante pour sa propre création littéraire. Et voilà, ça c'est au niveau du genre. Au niveau de la race, vous avez Abdennour Bidar, qui est un philosophe, un inspecteur général de philosophie, qui a réussi à partir, je dirais, d'un ghetto de Clermont-Ferrand, puisqu'il était d'une origine immigrée, hein, issu de l'immigration à Clermont-Ferrand, est devenu inspecteur général de philosophie. Et c'est quelqu'un qui prône effectivement le dialogue des cultures, hein, voilà, et effectivement la fraternisation des différentes composantes populaires de France sur cette base-là. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement on peut avancer, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, et en élargissant le cercle vers cette idée d'une école inclusive qui nous permette, à partir d'une culture populaire qui est la nôtre, celle de France, d'intégrer effectivement d'autres données, telles que par exemple la question de genre, du genre et de l'ethnie.
Merci Martine, bonsoir, merci d'être venue. Je répondrai de façon... J'allais dire plus nuancé, mais c'est pas tellement plus nuancé. Je vais compléter ce que tu as dit. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, d'autres sur lesquelles je suis un petit peu plus réservée. Je pense en effet que les contenus d'enseignement doivent s'interdire d'exclure. C'est mieux de le dire comme ça que les contenus d'enseignement doivent inclure. Parce que s'interdire d'exclure, ça veut dire qu'il faut en effet toujours avoir en tête, quand on travaille sur un curriculum, donc sur ce qui doit être enseigné, toujours avoir en tête que les élèves que l'on a en face de nous se sentent légitimés dans leur présence à ce moment-là dans l'école. Tout à l'heure, vous avez dit j'ai été violentée par le système. Quand des élèves sont violentés par le système, c'est que le système leur dit vous êtes des indésirables à un moment donné. Donc, tout contenu d'enseignement doit à tout prix se prémunir de la possibilité de construire des indésirables. Et ça peut passer, comme tu le disais, par ce que tu appelles l'intersectionnalité, donc c'est effectivement par des procédures de mise en visibilité d'enfants ou de gens de toutes les couleurs et qui existent et qui constituent la société française, bien sûr de mise à égalité des genres, etc. Donc ça, bien sûr, de tout ce qui est de l'ordre de l'anti-oppressif. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est susceptible de fabriquer des indésirables doit être purgé des programmes. Et il y en a des choses. Hein. Ah, il y en a. Hein. Alors là, nous, en histoire, vraiment, on est sans arrêt en train de traquer les absents et les absentes. Hein. Donc, il y en a des choses. Hein. Maintenant, un curriculum ne peut pas être mis au service d'une vision sociétale, comme tu dis, ou d'une idéologie. Je pense qu'il ne faut pas capituler sur cette idée aussi qu'il y a des savoirs qui sont des savoirs qui n'ont pas d'utilité sociale immédiate, qui sont des savoirs émancipateurs parce qu'ils nourrissent la connaissance et qu'on ne sait pas ce que les élèves seront censés en faire. Voilà. Et ils ne servent pas à ce qu'on se dise je suis là, j'ai raison d'être là, etc. Ils servent à d'autres choses qui, d'ailleurs, j'ai envie de dire, à un moment donné, ne nous regardent pas. C'est ça qui produit de la démocratie. Parce que si on suridéologise des curricula et si on en fait des contenus d'enseignement qui sont mis au service même de projets qui sont des projets généreux, on est dans des procédures encore d'aliénation. C'est-à-dire qu'on ne donne pas cette possibilité aux gamins de faire d'un savoir ce qu'ils ont envie d'en faire. C'est pour ça qu'il faut aussi toujours avoir en tête cette idée qu'il y a du savoir pour la saveur du savoir, comme disait Astolfi, que tu dois connaître. La saveur du savoir. Et la saveur du savoir, eh bien, on ne sait pas exactement où elle est, mais ce n'est pas simplement un savoir qui nous fait du bien. C'est un savoir qu'on a envie d'avoir. Voilà. Et c'est bien aussi de raisonner comme ça. Et c'est ce que disent les enfants de Barbiana. Ils ne réclament pas uniquement des savoirs qui les légitiment dans leurs conditions d'enfants de paysans. Ils réclament d'avoir accès à tous les savoirs. Tous.
Merci beaucoup. On va s'arrêter là et évidemment, vous pouvez continuer à échanger de façon plus informelle, etc. Mais on va sortir de ce cadre-là, en tout cas. Et merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été là ce soir. Bonne soirée.
C'était Rencontre avec Laurence de Coq autour du livre Lettre à une enseignante des élèves de l'école de Barbiana, paru aux éditions Agone.
Radio Livre d'Armes.